Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes sur Radio Grand Ciel. Bienvenue dans l'émission Un livre, un auteur. Pascal Lereste à l'antenne, ethnologue et directeur de collection chez l'éditeur parisien L'Harmattan, pour vous servir. Un livre, un auteur, une émission mensuelle d'une heure pour découvrir l'univers d'un auteur autour d'un de ses livres. S'immerger pas à pas dans les représentations vécues de celui qui écrit, dans le monde qu'il active, qu'il met en mots, en musique. Telle est mon intention. Et pourquoi ? Mon but, vous donner envie de rentrer dans l'objet livre, en comprenant mieux les ambitions de celui qui écrit, les centres d'intérêt qui président à la construction de son ouvrage. Un livre, un auteur, reçoit un invité par mois et se concentre principalement sur des auteurs publiés chez L'Harmattan, plus grand éditeur indépendant de France. Ces auteurs seront parfois euréliens, parfois américains ou coréens. Bref, ils viendront de partout. Ce seront parfois des auteurs que j'ai pu publier, mais pas toujours. L'éclectisme est le signe de l'émission et les genres proposés iront de l'essai au roman, du récit de vie à la poésie. Une émission mensuelle, comme un rendez-vous pour une rencontre, une belle surprise. Une heure par mois pour être touché, ému, ou réfléchir et se surprendre à vouloir lire quelque chose d'enfin différent, le livre d'un auteur. Et nous recevons aujourd'hui dans l'émission Un livre, un auteur, Ludovic Lavarlochère pour son livre L'insertion professionnelle face au handicap psychique et mental et Claire Fleury pour son livre De l'insertion à l'exclusion, le cas des centres d'hébergement et de réinsertion sociale. Alors bonjour à tous les deux.
Bonjour.
C'est une émission un peu spéciale car nous avons déjà reçu la fois dernière Ludovic Lavarlochère pour son livre, mais cette fois-ci il s'agit moins des livres à proprement parler et de leur contenu que du parcours de nos deux auteurs. En fait, ce qui m'intéresserait aujourd'hui, c'est d'introspecter un petit peu le cheminement des auteurs, de leurs études, jusqu'à la production de leur mémoire de fin d'études, et de cette production de mémoire jusqu'à leur première publication, et de cette première publication jusqu'à leur consécration dans le monde de l'éducation spécialisée, car leurs deux productions sont des livres dans le champ de l'éducation spécialisée. Voilà, alors peut-être tout d'abord quelques mots. Claire, qu'est-ce qui t'a emmené à faire les études dans le champ du social? Alors, tu vas nous dire un peu quelles études tu as faites et nous dire un peu tes motivations.
Alors, je ne vais pas tout énumérer peut-être, mais donc j'ai commencé par un parcours en faisant des études de psychologie. Donc, je suis psychologue de formation, parcours que j'ai débuté à Metz et que j'ai poursuivi à Paris. Et à la fin de mes études, j'ai pas trouvé d'emploi tout de suite. Quelques vacations par-ci, par-là. Et bien entendu, j'avais besoin de me nourrir. Et c'est par hasard que j'ai eu l'opportunité d'avoir un poste de travailleur social au centre d'accueil des soins hospitaliers de Nanterre. Et j'ai accepté, parce que effectivement, c'est quelque chose qui m'intéressait. Je travaillais avec des familles. Et... durant ce parcours-là, donc je me suis formée sur le terrain. J'ai demandé de l'aide aux collègues, etc. Et j'ai fait différents services, dont un CHRS, une résidence sociale. Et j'ai terminé par l'équipe de rue service de domiciliation. Et entre-temps, bien entendu, j'ai passé une VAE d'assistante sociale, puisque j'avais besoin aussi de concrétiser un petit peu toutes ces connaissances que j'avais emmagasinées. Et au bout de 17 ans de travail social, il y avait un moment donné où j'avais l'impression de tourner en rond. Et j'avais l'impression aussi que les choses, enfin, qu'au niveau du social, les moyens diminuaient. C'est-à-dire que effectivement, moins de budget alloué aux structures et forcément avec des répercussions sur le travail. Donc j'avais envie de comprendre un petit peu tous ces enjeux et pour cela, j'ai choisi le DEIS qui me semblait être une formation assez complète pour comprendre différents processus.
Ouh là là, le DEIS, mais c'est quoi le DEIS?
C'est le diplôme d'ingénierie sociale, d'état d'ingénierie sociale. Et donc, j'ai choisi l'ETSUP parce que c'était une formation qui était enfin, étalée sur 3 ans.
Ok, alors l'ETSUP, c'est quoi?
C'est l'École supérieure de travail social qui se situe à Paris.
Oui.
Donc, c'est une vieille école du travail social. Et voilà, 3 ans parce que, étant donné le programme qui est proposé dans cette formation... assez conséquent. J'ai estimé que 3 ans, c'était pas une année de trop. D'autant plus que j'étais toujours en situation d'activité professionnelle. Donc, il fallait effectivement produire. Hein. Il y avait un. Donc, j'ai quand même. Je me suis un peu documentée, un article, un mémoire de recherche et une étude en groupe. Pour réaliser ces 3 travaux conséquents, j'ai pensé que 3 ans était bien, enfin que c'était nécessaire puisque travailler à côté à temps plein, ça veut dire travailler le soir et le week-end pour pouvoir réaliser toutes ces productions.
Mmh. Bien sûr. Alors bon, pour les auditeurs, je vais revenir un peu en arrière, dire que le DEIS, donc c'est effectivement le diplôme d'État d'ingénierie sociale, c'est donc un diplôme d'ingénieur, c'est donc l'équivalent d'un bac plus 5, c'est un diplôme de niveau 1, c'est le diplôme le plus élevé dans la nomenclature des diplômes du domaine social avec le CAFDES. Mais bon, le CAFDES, c'est un diplôme approprié pour les directeurs d'établissements qui ont en général au moins 50 salariés. Alors que le DEIS, lui, il est plus approprié pour les postes de chargé de mission, de conseiller technique, de chargé d'études. Voilà. Et généralement, il est adossé à un master. Et là, je vais poser la question à Ludovic. Parce que justement, de master, eh bien, il en a eu un, lui aussi, en faisant cette double formation.
Oui, exactement. Alors, bonjour à toutes et à tous. Je n'ai pas l'expérience de Claire dans le travail social. Hein. Moi, fils de militaire, au départ, j'ai passé mon adolescence en tant qu'enfant de troupe. Puis j'ai fait une classe préparatoire HEC sur Versailles pour ensuite préparer un diplôme d'école de commerce que j'ai obtenu. Le DEIS, en fait, s'est présenté à moi suite à une situation de handicap, hein, à la suite d'un accident de travail. J'avais besoin de prendre du recul sur mon métier et l'envie de servir l'intérêt général. Et le DEIS s'est trouvé être une formation appropriée, en tout cas à mes aspirations. Pour compléter un petit peu ce que disait Pascal sur le diplôme d'État en ingénierie sociale, en fait, il forme des cadres développeurs, tandis que le CAFDES forme des cadres dirigeants en établissement. Donc, il y a une dimension de développement, de recherche, à travers le DEIS qui est passionnante hein, puisqu'elle permet à tout un chacun de prendre du recul sur des questions sociales qui peut l'intéresser et de pouvoir traiter de sujets divers et variés. Il y a énormément de sujets sociaux à traiter avec des prismes différents selon chacun. Et c'est ce que j'ai apprécié en préparant le diplôme d'État en ingénierie sociale, c'est cette liberté de penser que l'on a, tout en étant rigoureux sur la méthodologie hein, à avoir pour traiter de sujets sensibles, aussi bien sujets traitant de l'insertion que du handicap ou je ne sais quoi encore, hein, enfin en tout cas tout ce qui concerne le secteur social et médico-social. Donc pour moi ça a été une ouverture, ayant été confiné pendant près de 8-9 ans à l'adolescence en lycée militaire, puis ensuite en magasin en tant que manager opérationnel, j'avais ce besoin d'ouverture et de pouvoir penser les questions sociales différemment et m'y investir pleinement à travers la recherche.
Très bien. Et vous avez validé l'un et l'autre, donc un master.
Hein, c'est ça.
Il y a un master qui était adossé. Claire.
Voilà. Alors effectivement, le master est optionnel, hein, mais c'est une possibilité qu'ont les étudiants de le faire ou de ne pas le faire. Alors c'est quand même un travail assez conséquent parce qu'il y a aussi un mémoire de recherche qui peut être le même que celui du DIS, un peu moins fourni, bien entendu, puisqu'il n'y a pas besoin de préconisation, etc. Mais il y a tout un autre travail à côté, à rendre. Un voyage d'études, ça, c'était sympa, par contre. Et il y a aussi la rencontre avec les étudiants de l'université et les enseignants de l'université. Donc, c'était des échanges riches. Et moi, ça m'a permis aussi de m'ouvrir un peu... parce que je ne connais pas la protection de l'enfance, ce n'est pas du tout mon domaine professionnel. Et du coup, ça m'a permis de voir aussi d'autres aspects concernant les politiques sociales, certes, mais au-delà de ça, d'échanger sur le travail en protection de l'enfance avec les collègues de l'université. Donc, et le voyage en Grèce, bien entendu. À Athènes.
Oh, c'est bien.
Alors, on a fait une bonne partie d'Athènes et on a visité des associations qui s'occupaient d'enfants en danger ou d'enfants qui étaient placés. Donc, ça nous a permis de voir un petit peu tout ce qui se faisait et de voir aussi les conséquences de la crise en Grèce qui, aux dernières nouvelles d'une grecque, s'est aggravée encore depuis notre voyage. Donc, on l'a fait en 2017. Et là, c'est vraiment catastrophique. Voilà, donc... mais c'était une expérience difficile, émotionnelle. Mais très intéressante et heureusement agréable parce que la Grèce est un super pays.
Très bien, un mot sur le master, Ludovic ?
Oui, moi personnellement, j'ai trouvé qu'il y avait une différence notable entre le master et le DI, c'est un diplôme d'état en ingénierie sociale. C'est que le diplôme d'état en ingénierie sociale a une vocation très pratique, tandis que le master, on est vraiment dans la recherche scientifique. Avec cette rigueur exigée dans la méthodologie de recherche. Le DI, c'est également le cas, hein. Il y a une exigence attendue, mais la dimension opérationnelle qui débouche souvent sur ce que l'on appelle de la recherche-action est très prégnante et très importante avec le diplôme d'État en ingénierie sociale, c'est-à-dire en fait faire de la recherche mais en faisant participer les acteurs de terrain de manière à ce que les résultats de cette recherche puissent servir le travail social, les professionnels sur le terrain et faire avancer les choses dans le bon sens. Donc il y a vraiment une dimension très opérationnelle où on travaille étroitement avec les usagers, leurs familles, les professionnels qui les accompagnent de manière à produire de la connaissance qui soit utile socialement parlant et qui ne soit pas simplement de la recherche, l'écriture de livres qui n'aurait aucune incidence sur les pratiques d'accompagnement des usagers.
Très bien. Nous allons faire une première pause et puis ensuite nous en viendrons à comprendre comment on passe de la rédaction d'un mémoire de fin d'études à la publication. À tout de suite. If you say this is pop, to be singing to a tune with a rhythm like this, would it be so unpopular for a singer like me to be bringing up the fact that we're all gonna go?
Some people swear, they say they know where. For me, it's a mystery. But whichever way you see it, you have to admit it and live it and live it. We all kick the bucket in the end, the end. All the girls kick the bucket in the end, the end. And the boys kick the bucket in the end, the end. Yep, we all kick the bucket in the end, the end, the end, the end, the end. Blew up my TV. It was numb in my brain to be thinking the same as a million other people. Oh, feeling afraid of the same thing, but there's nothing to lose. 'Cause we're all on a bike and we're cycling through, getting off on our injuries. But you gotta get back on it and live it, and live it to love it, and live and love life. 'Cause we all keep the bucket in the end, the end. All the girls keep the bucket in the end.
Vous êtes toujours sur Radio Grand Ciel avec Pascal Lerest dans l'émission Un livre, un auteur qui reçoit aujourd'hui Claire Fleury et Ludovic Laverlechère pour leurs ouvrages. Et première question tout de suite là, parce qu'on n'y tient plus. Comment passe-t-on de la rédaction d'un mémoire de fin d'études à la publication? Je suis sûr qu'il y a plein d'étudiants qui nous écoutent et qui aimeraient bien aussi être publiés un jour. Alors, donc, comment fait-on l'un et l'autre?
Alors, pour ce qui me concerne, étant donné que je n'ai pas eu le même parcours que Claire, qui avait déjà une certaine connaissance du secteur social et médico-social, de par les métiers qu'elle a pu exercer, pour ma part, il a fallu effectuer un travail d'acculturation pendant 3-4 ans, c'est-à-dire m'imprégner des pratiques des travailleurs sociaux. J'ai eu la chance, en préparant le diplôme d'État en ingénierie sociale et le master, de côtoyer des travailleurs sociaux, ce qui n'était pas le cas avant. Avant, j'étais en entreprise et donc je côtoyais des salariés lambda. Et là, il a fallu que je m'imprègne de cette culture et je comprenne un petit peu les modes de pensée, les mécanismes et les enjeux du secteur. Donc il y a eu un nécessaire travail d'acculturation au départ, avant de pouvoir me pencher véritablement sur mon mémoire de recherche, sur mon écrit à proprement parler. Sans ce travail d'acculturation, je pense que je n'y serais pas arrivé. Et l'aide de mes camarades de promotion a été précieuse. Notamment, avec Claire, nous avons eu la chance de réaliser une étude de terrain au sein d'un foyer d'hébergement pour travailleurs handicapés sur la question du genre. Et ça nous a permis d'échanger des points de vue qui, au départ, étaient différents et de pouvoir travailler de concert sur cette question du genre en établissement.
Donc déjà, un premier élément, la coopération est nécessaire.
C'est ça.
Il ne faut pas rester isolé, il faut travailler et il faut être capable d'échanger avec ses pairs.
C'est ça. Il s'agit de travailler en étroitement avec le terrain. On est, en tant que cadre développeur, on est là aussi pour mobiliser les ressources humaines et matérielles sur un territoire donné, de manière à pouvoir développer des pratiques professionnelles adéquates et adaptées aux usagers et aux problématiques qu'ils rencontrent au quotidien.
Claire.
Oui, alors oui, effectivement, et donc ça, c'est quelque chose qui est demandé hein, dans le cadre du DEIS, hein, une étude de terrain en groupe, ce qui n'est pas facile puisque les rythmes des uns et des autres ne sont pas forcément les mêmes, chacun n'a pas le même fonctionnement, hein, la même temporalité, etc. Et effectivement, ça peut passer par des frictions, des moments de tension, mais on a toujours réussi finalement dans le groupe à se recentrer sur le travail. Et on a avancé, et puis on a bien, bien réussi. Donc, c'était une étape avant le mémoire de recherche, qui a démarré finalement quand même en deuxième année. Donc, on a eu le guidant d'IS qui nous a accompagnés pour le premier mémoire à l'université, le Master 1. Alors, ça c'était un peu compliqué au début, puisqu'ensuite, en deuxième année, donc pour le Master 2 et pour le mémoire de DEIS, nous avons eu deux guidants. Le mémoire de DEIS continuait à nous accompagner à ce moment-là, plus un guidant de l'université. Bon, moi, je me suis retrouvée un petit moment en situation de schizophrénie parce que même si le travail demandé au final était, on va dire, à 70% le même, voilà, et finalement, en parlant avec mon guide en DEIS, qui est Pascal Le Reste, oui, effectivement, alors il s'est effacé un petit peu le temps de la réalisation du mémoire de le M2, puisque je voulais absolument le présenter en juin. Donc, c'est court, hein, c'est une échéance assez courte. Tout en, bien sûr, en continuant d'échanger. Donc, il a laissé la main à Louis Mathiot de l'Université de Nanterre. Voilà. Et puis, on a repris vraiment le travail d'EIS après la présentation du mémoire du Master 2. Donc, oui, il y a eu une petite période un peu. C'était pas schizophrénique, mais oui, c'était quand même un peu compliqué, c'était pas simple. Bon, je pense aussi pour le guidant, pour Pascal et pour Louis Mathiot, parce que finalement, il y avait déjà tout un travail d'entamé, ça cassait un peu, et puis voilà. Ceci dit, ça s'est fait. Et suite donc à cette présentation d'EIS, donc Pascal Le Reste m'a gentiment proposé d'éditer mon travail. Et bien sûr, alors j'ai été d'accord tout de suite. Mais après, je me suis dit, bon, c'est vraiment un travail où il y a beaucoup de méthodologie un peu imbuvable, en fait, pour une édition. Toute une partie. Donc, j'ai choisi de simplifier beaucoup la méthodologie, même si effectivement l'ouvrage peut servir d'appui pour les étudiants. Et puis j'en ai profité aussi, je me suis fait plaisir. J'ai rajouté un avant-propos qui expliquait le contexte de ma recherche, de mon sujet de recherche, ce que je n'aurais jamais pu faire pour un mémoire DEIS ou Master 2. Voilà, pour moi, c'était aussi un petit peu une manière de boucler la boucle. Alors, mon ancien directeur m'a acheté un livre, le livre, je ne sais pas s'il va le lire. En tout cas, voilà, alors, si ça peut aussi, lui, le faire un petit peu réfléchir hein, sur les pratiques, parce que c'est quelqu'un c'est pas quelqu'un de méchant, c'est pas quelqu'un de. Mais je pense que de sa fonction, sa place de directeur dans la fonction publique hospitalière, d'autant plus directeur de pôle, c'est quelqu'un qui ne se rend même pas compte des enjeux quand il y a des suppressions de postes, des réorganisations de travail qui sont prises comme ça, sans concertation, et qui ont de graves répercussions sur la souffrance des professionnels, mais aussi après des conséquences sur les personnes prises en charge.
Bien sûr.
Voilà.
Alors, peut-être revenir en arrière pour dire, pour les auditeurs, effectivement, il y a, quand on fait comme ça un mémoire avec la même thématique pour un master et pour un DEIS, pour un diplôme d'État d'ingénierie sociale, Il y a deux entrées radicalement différentes. Il y a un master qui est vraiment universitaire et qui suppose des méthodologies très rigoureuses avec des références précises. Pour faire avancer, je dirais, un peu le monde des idées. Ça, c'est la première chose. Alors que le DEIS est un diplôme à vocation professionnelle. C'est d'ailleurs un diplôme qui est référencé au registre des certifications nationales professionnelles. C'est un diplôme de niveau 1 qui est d'une certaine manière supérieur donc au master et qui suppose donc une capacité à promouvoir de nouvelles stratégies opérationnelles dans le registre d'un champ, qu'il soit social ou médico-social. Voilà, donc en fait, effectivement, c'est la raison pour laquelle, comme disait Claire, il y a des directeurs de mémoire qui sont différents et donc il faut, faut travailler en bonne intelligence. Hein, donc c'est évident. Alors ensuite, je reprends, parce qu'il se trouve que Pascal Le Reste, c'est moi. Donc oui, j'étais bien le directeur donc, de mémoire pour Claire. Et effectivement, donc c'est intéressant justement hein, qu'on puisse en parler là de comment on en arrive à la publication. Moi, en tant que directeur de collection, évidemment, quand je reçois un travail, a fortiori si c'est un mémoire, il y a tout le passage entre ce texte qui est un texte savant, hein, entre guillemets, et puis sa transformation pour en faire un livre qui soit compréhensible par le plus grand nombre de lecteurs possible. Donc, évidemment, toutes les questions de méthodologie hein, dont tu as parlé, hein, on se tutoie en général, donc je te tutoie là. Hein, bon. Donc, toutes les questions de méthodologie, il faut qu'elles soient un peu effacées parce que le lecteur lambda, il n'a pas besoin de connaître les enjeux méthodologiques. Donc, c'est ce que tu as dit, effectivement. Là, tout ça, il faut l'effacer. Il faut arriver à faire un texte qui soit le plus clair possible, même si... Il ne s'agit pas d'effacer les aspects de complexité. Voilà. Donc voilà. Donc on va poursuivre avec Ludovic pour qu'il nous dise un petit peu quel a été le passage pour lui entre ce mémoire et le livre qu'il a fabriqué.
Alors à titre personnel, moi je me suis beaucoup appuyé sur mon expérience en milieu ordinaire en entreprise. Au départ, pour traiter de la question de l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap psychique et mental, cette expérience en entreprise m'a permis de pouvoir traiter de cette question parce que je connaissais déjà le monde de l'entreprise, je connaissais les tenants et les aboutissants, quels sont les enjeux pour les entreprises d'intégrer des personnes en situation de handicap. Et donc du coup je me suis beaucoup appuyé sur ma propre expérience en tant que travailleur en situation de handicap mais aussi en tant que manager d'entreprise. Donc pour moi ça a été très précieux cette expérience-là et il me manquait cette connaissance du secteur protégé et de l'action sociale, cette connaissance de la manière dont travaillent les professionnels dans le secteur social et médico-social. Et donc les lectures m'ont beaucoup aidé, et puis des temps d'observation en ESAT m'ont également permis d'approfondir mes connaissances. Les échanges avec mes camarades de promotion ont été très précieux également. Les entretiens menés avec les usagers et les professionnels sont aussi une source d'enrichissement fécond. Et à ce titre, j'ai eu l'impression, en passant du monde de l'entreprise à la préparation du diplôme d'État en ingénierie sociale, de passer d'un univers où j'avais la tête dans le guidon, hein, quelque part, et du jour au lendemain, j'ai eu la possibilité de prendre du recul sur ce qui se passait autour de moi en matière de questions sociales. Et vu mon intérêt pour les sciences humaines depuis le très jeune, hein, je me suis toujours intéressé aux sciences humaines, pour moi, ça a été une réelle opportunité de sortir un petit peu de mes connaissances habituelles et de voir le monde différemment, plutôt que par le prisme unique de l'entreprise.
Merci Ludovic, nous faisons une pause et nous retrouvons nos invités tout de suite après.
Through the sleepless nights I cry for you and wonder who is kissing you. These sleepless nights will break my heart in two. Somehow through the days I don't give in, I hide the tears that wait within. But then through sleepless nights I cry again. Why did you go?
Vous êtes bien sur Radio Grand Ciel, toujours avec Pascal Lerest, qui reçoit aujourd'hui Claire Fleury et Ludovic Laverlechère pour l'heure de livre. Alors, tout de suite, Claire, quand on publie un livre comme ça, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on vit de particulier qui soit important à dire?
Alors, c'est vrai que c'est effectivement un temps où on est seul, hein, de réécrire finalement le mémoire, quelque part, de l'adapter. Et puis, donc, il y a la publication et on voit son livre. Ça fait très bizarre. Et puis, en même temps, j'étais très contente, j'étais fière. Et puis, j'ai eu l'opportunité, en fait, d'intervenir à l'ETSUP, justement. Chaque année, ils font une journée spéciale pour les DIS, donc, où sont regroupées les premières, deuxième et troisième années. Et donc, effectivement, pour parler de mon parcours et aussi pour présenter mon ouvrage. Et du coup, j'étais super contente parce que c'est aussi un peu l'objectif du livre. C'est-à-dire que ça permet aux étudiants ça répond à certaines inquiétudes, à certains questionnements, parce que effectivement, durant ce parcours, c'est pas rien, hein, ça secoue. Il y a des périodes de doute, on ne sait pas si on fait bien, etc. Et en même temps, peu importe le champ aussi d'intervention des uns et des autres, hein, que ce soit plutôt en protection de l'enfance ou autre, ou en dans le milieu du handicap, finalement, il y avait des points communs qui ressortaient de mon travail. Et donc, ça a permis effectivement d'échanger et de débattre.
Mais en traversant le miroir, cette fois, pour
toi. Tout à fait, ouais. Hein,
en se retrouvant de l'autre côté.
Tout à fait. Et du coup,
avec un vecteur qui est quand même le vecteur livre.
Oui, voilà.
Donc, c'est différent, puisqu'ils préparent, eux, un mémoire, mais toi, tu avais un livre en main.
Voilà, donc c'est vrai que pour eux, C'est quelque chose d'encourageant, puisqu'ils se disent, ben oui, bon, je peux y arriver peut-être aussi. Et puis ça peut donner
une perspective.
Voilà, tout à fait. Et en même temps, pour moi, j'étais contente parce que du coup, ça suscitait un peu aussi des débats, des questionnements. Et je me rendais compte qu'il y avait des processus. Voilà, c'était aussi un peu l'objectif du livre, d'échanger et puis de parler un petit peu de tous les différents processus qui pouvaient se retrouver au sein du secteur social et médico-social. Et voilà, donc c'était une journée vraiment riche. Donc j'ai pu aussi vendre quelques ouvrages.
Oui, parce que le monde du livre, c'est pas ce qu'on croit, hein. On ne devient pas forcément millionnaire et on ne voit pas forcément des dizaines de milliers de livres.
Tout à fait. Voilà. Et par ailleurs, donc du coup aussi, j'ai été contactée par un étudiant de Metz. Et puis donc, il s'adresse à moi parce qu'il avait acheté mon ouvrage. Donc c'est vrai que ça fait bizarre. Et donc, il devait faire une fiche de lecture. Il a beaucoup, il a une petite expérience en CHRS, donc il se retrouvait un petit peu dans ce que j'écrivais. Et donc, en fait, me demandant un petit peu des informations sur mon parcours et sur un peu plus de détails sur certains points de ce que je pensais du travail en CHRS.
Donc, ça crée des liens, il y a des rencontres.
Tout à fait, oui. Et puis, bon, voilà, donc, au bout d'un an, donc, c'est une belle aventure, en fait. Hein.
Très bien. Ludovic ?
Moi, je rejoins Claire sur l'idée que on est sujet à de nombreux doutes quand on rédige son mémoire, en tout cas son mémoire pour obtenir son diplôme. Donc ça fait partie du processus. Après, la sortie du livre, c'est une forme d'accomplissement personnel, en tout cas. Mais ça ne s'arrête pas là. C'est-à-dire qu'on est aussi là pour ouvrir des portes, ouvrir la réflexion et permettre au lecteur, qu'il soit professionnel ou pas, de s'interroger sur notre société, sur la manière dont sont accompagnées les personnes en situation de fragilité. Et donc, en cela, le livre est à la fois un accomplissement et une ouverture sur le monde et un partage. Et effectivement, j'ai eu l'occasion, à l'issue de cette publication, la publication de mon livre, d'être sollicité comme Claire par une étudiante qui préparait une thèse professionnelle sur les services d'aide à domicile hors les murs. Et qui avait besoin d'être accompagné. Donc, je lui ai apporté le côté méthodologique de la rédaction et j'ai essayé en même temps de lui faire prendre conscience de la nécessité de prendre du recul sur ce qu'elle constatait à travers ses recherches, etc., pour pouvoir apporter une épaisseur à sa recherche, une dimension qui serait que des professionnels pourraient se réapproprier pour développer les pratiques d'accompagnement. Et donc du coup, oui, ça ouvre des portes. Bon, moi j'ai l'occasion d'être mardi prochain invité aux rencontres nationales des directeurs d'établissement. Bon, c'est la preuve et pour moi c'est une fierté que mon livre intéresse les professionnels au contact des usagers qui sont sur le terrain et j'espère pouvoir susciter de leur part de la réflexion dans le sens du progrès et pas simplement écrire un livre pour que demain il soit mis de côté et qu'il n'ait pas suscité d'engagement des individus.
Donc un vecteur de transmission de connaissances.
C'est un vecteur de transmission.
C'est important pour un ingénieur du social.
C'est ça. Partage des connaissances, hein. On s'alimente les uns les autres. Moi, j'ai écrit un livre, mais toutes les remarques qui peuvent être faites sur mon livre sont bonnes à prendre et m'encouragent à poursuivre ma réflexion et pourquoi pas à effectuer une autre recherche et publier un autre ouvrage qui ouvrira d'autres portes et permettra aux professionnels et aux usagers de trouver, en tout cas, quelques réponses aux problématiques qu'ils rencontrent dans leur vie.
Très bien. Nous faisons une courte pause et nous enchaînons avec la rubrique des livres du mois. À tout de suite. Vous êtes bien sur Radio Grand Ciel avec Pascal Lerest pour un livre, un auteur, et nous en arrivons à la rubrique des livres du mois, avec ce mois-ci donc quatre livres passionnants. Le premier, Gaston Bachelard, L'inattendu, Les chemins d'une volonté, un livre de Jean-Michel Vavelet, donc dans la collection Biographie chez L'Harmattan. Alors, pour ma part, j'ai découvert Gaston Bachelard. Donc, j'avais déjà lu Gaston Bachelard, mais je ne connaissais pas, en fait, sa vie. Donc, là, franchement, on suit pas à pas l'évolution de cet homme tout à fait surprenant qui commence par travailler dans les postes et qui passe le bac tardivement, qui va devenir professeur tardivement, qui fait tout très tardivement, il va devenir mathématicien, et puis philosophe sur le tard. Quelqu'un qui s'est consacré à la pédagogie également, qui a éduqué lui-même sa fille, sa femme étant décédée très jeune de la grippe espagnole. Une vie faite de tragédies, faite de beaucoup d'inattendus, mais en même temps un parcours de lumière, vraiment un parcours lumineux, et quelqu'un qui a su tirer le meilleur de la vie. Voilà, quelqu'un qui a vécu en Haute-Marne, donc loin en fait des lumières parisiennes, mais qui a tout construit en fait par lui-même. Et voilà, et le sous-titre choisi par Jean-Michel Vavelet, Les chemins d'une volonté, est tout à fait approprié. Donc c'est vraiment un ouvrage que je conseille à tout le monde. Et là, aujourd'hui, puisqu'on parle de cheminement intellectuel, on parle du passage comme ça, de master à DEIS, et puis de DEIS à publication, et bien voilà, Gaston Bachelard, qui est l'un des plus grands intellectuels du XXe siècle en France, est quelqu'un qui a appris toute sa vie et qui a su accomplir des choses, même sur le tard. Pour lui, rien n'était jamais trop tardif. C'est vraiment un livre fabuleux à lire par tous les parents, je pense, pour les aider dans leur travail d'éducation. Donc Jean-Michel Vavelet, Gaston Bachelard, L'inattendu, Les chemins d'une volonté, collection Biographie chez L'Harmattan. Alors ensuite, un petit livre, car il ne fait qu'une centaine de pages. Alors, de Gabriella Taranto-Tournon, La psychanalyse comme parcours poétique, une odyssée de soi, dans la collection Psychanalyse et civilisation chez L'Harmattan. Alors, ça, c'est un ouvrage qui est totalement décalé. C'est un ouvrage qui parle à la fois de psychanalyse et de mythologie grecque. Et donc, l'auteur nous emmène pas à pas dans un cheminement personnel où elle lit en même temps les questions de mythologie, donc qui renvoient évidemment aux fondamentaux de notre société. Et elle sous-titre son livre ainsi, Une odyssée de soi. Donc évidemment, Odyssée, ça fait référence à Homère. Et en fait, elle montre que la psychanalyse, eh bien, c'est une autre odyssée. C'est une odyssée peut-être plus actuelle, plus contemporaine, mais que finalement, chez Homère, avec l'Iliade et l'Odyssée, il y avait déjà ces questionnements-là qui étaient en jeu. Et finalement, la tradition poétique homérique, c'était une manière aussi de rappeler à chacun ou d'aider chacun à être dans un cheminement introspectif. Enfin voilà, donc je dis des choses sans dévoiler le contenu du livre. C'est un livre qui est assez court, qui est finement écrit, c'est très poétique, c'est très simple à lire. Contrairement à beaucoup de littérature psychanalytique, c'est très simple à lire, C'est quelqu'un qui fait toujours le lien avec la personne qui a été fondamentale pour elle dans son propre parcours de vie, à savoir sa propre psychanalyste, puisque elle-même, Gabriella Taranto-Tournon, est psychanalyste. Elle fait toujours référence, en fait, à son superviseur, en quelque sorte. C'est vraiment un très, très beau livre. Donc, je vous en rappelle le titre, « La psychanalyse comme parcours poétique, une odyssée de soi ». Collection Psychanalyse et Civilisation chez L'Harmattan, Gabriella Taranto-Tournon. Un troisième livre, Le Jura insolite et secret, de Gérard Chapez. Alors là, on est dans les éditions Sutton, dont on a déjà accueilli ici le directeur général. Et donc, en fait, c'est un livre qui nous emmène pas à pas dans la connaissance... De ce territoire rural français qui est très typé, très typique et qui est d'un charme certain, avec des cascades, avec des églises, des châteaux, des maisons, une architecture, des forêts qui sont extrêmement intéressantes. Voilà, donc un très beau livre photographique, Le Jura, insolite et secret, édition Sutton, un livre de Gérard Chapez. Et enfin, un dernier livre de Jonathan Louly, Le travail social face à l'incertain, la prévention spécialisée en quête de sens chez L'Harmattan, collection éducateur et prévention. Donc, je n'en dis pas plus car Jonathan Louly est un auteur que je vais faire venir sur Radio Grand Ciel lors de la prochaine émission et nous aurons l'occasion donc de traiter de son livre, sachant que la prévention spécialisée est un métier aujourd'hui en tension, un métier en danger. Voilà, donc j'en rappelle le titre, Le travail social face à l'incertain, la prévention spécialisée en quête de sens. Vous êtes toujours sur Radio Grand Ciel dans l'émission Un livre en auteur avec Pascal Lerest qui reçoit donc aujourd'hui Claire Fleury et Ludovic Laverlecher pour leur livre sur le travail social. Alors Claire, donc ce livre donc qui clôture en quelque sorte une aventure intellectuelle avec, comme on l'a vu, des études en master puis en DIS. Cette aventure-là, elle est terminée ou est-ce qu'il y a d'autres projets littéraires en cours ?
Alors, effectivement, donc ça a un petit peu bouclé une boucle, hein, dans le sens et personnel et professionnel. Un autre ouvrage, peut-être. Pour le moment, non. Effectivement, je me consacre plus, effectivement... sur le niveau professionnel, mais effectivement, je songe un petit peu, j'aime beaucoup le quartier dans lequel je vis, qui est le 19e arrondissement de Paris, et voilà, j'ai beaucoup de questions comme ça qui me viennent par rapport, voilà, c'est un quartier très populaire, avec beaucoup de mélanges religieux essentiellement, hein. Et donc, c'est très pacifique, mais effectivement, les gens ne se mélangent pas. Ils cohabitent, mais ne se mélangent pas. Et voilà, mais pour l'instant, effectivement, je suis plus au niveau professionnel. Là, je viens juste de me mettre auto-entrepreneur.
Un projet.
Tout à fait. Et donc là, pour l'instant, j'effectue effectivement des missions en tant que... qu'enquêtrice sociale, mais je vais effectivement aussi voir pour me lancer aussi dans les formations, puisque effectivement l'objectif aussi de l'ouvrage, et puis c'est quelque chose qui me tient à cœur, ce serait d'intervenir dans les écoles de travail social, et puis peut-être aussi en entreprise, sur les questions du bien-être et de la souffrance au travail, puisque je suis aussi psychologue de formation. Mmh. Et je ne perds pas de vue aussi ce qui m'a beaucoup intéressée en DEIS, ce serait de travailler, d'aider justement les institutions du secteur social et médico-social, de travailler sur les projets de services ou projets d'établissement ou sur de l'évaluation interne.
D'accord.
Donc très... C'est un gros chantier, c'est très varié,
ah, oui,
c'est... mais c'est ce qui me plaît aussi.
Très bien, super. Ludovic ?
Ben moi, j'aimerais poursuivre ma recherche concernant l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap, mais en l'abordant via un prisme peut-être moins centré sur le secteur protégé, mais plus du point de vue de l'entreprise, voir un petit peu comment eux... voient le secteur protégé de manière beaucoup plus précise et quelles seraient éventuellement les actions qu'elles pourraient mettre en place. Donc, je pense qu'il y a, un travail à faire de ce côté-là. Je m'intéresse également aux personnes très, très diplômées qui sont en situation de handicap et qui font face ce qu'on appelle le plafond de verre, qui peinent à progresser dans l'entreprise du fait de leur handicap. J'ai essayé de trouver des informations à ce sujet et je me suis rendu compte qu'il y avait très peu de réflexions menées sur ce sujet. Donc c'est un domaine qui m'intéresse et que j'aimerais creuser. Et puis parallèlement, je m'intéresse beaucoup à la protection de l'enfance et notamment aux questions liées à l'adoption. Puisqu'on sait qu'aujourd'hui, l'adoption est de plus en plus difficile. Hein. La plupart des pays ferment leurs frontières, si je puis dire, auprès des futurs parents adoptants pour privilégier en interne les adoptions internes. Hein, et je pense qu'il y a des choses à creuser de ce côté-là. En tout cas, moi, ça suscite mon intérêt. Donc j'aimerais développer cette réflexion. Et puis, de manière tout à fait accessoire, mais en tout cas, j'ai toujours été attiré par ce projet-là, j'aimerais écrire un roman. Alors, le sujet, je ne l'ai pas encore défini, mais ce serait certainement un roman qui traiterait de questions sociales, mais de manière vraiment romancée, c'est-à-dire peut-être moins scientifique que ce que j'ai pu aujourd'hui réaliser en rédigeant mon livre sur l'insertion professionnelle, mais quelque chose de très romancé, mais qui n'en serait pas moins sensible aux questions sociales. Mmh. Donc voilà, c'est un projet que j'aimerais développer par la suite.
Alors, il y a des fictions qui sont intéressantes. Carole Klein a écrit un livre comme ça, justement.
D'accord.
Hein, donc... dont le titre m'échappe, mais qui est dans la collection ethnographique, chez l'Harmattan.
D'accord.
Voilà. Ouais, c'est très intéressant, mais c'est tout à fait bien. Donc, j'aimerais vous poser une dernière question à chacun. Pour vraiment compléter le tableau, quelles sont aussi les choses qui vous ont étonné ou qui vous ont surprise après publication d'un livre? Parce qu'en fait, on imagine toujours... je sais parce que je suis passé par là en tant qu'auteur au début, c'était frappant. On a toujours l'impression qu'il va se passer plein de choses. Finalement, c'est pas toujours le cas. Quelles sont un peu les déceptions, les frustrations, qu'est-ce qu'on imaginait qui s'est pas passé ou qu'est-ce qu'on n'a pas imaginé qui s'est passé? Claire?
Alors, la question est difficile parce qu'en même temps. Je pense que je m'attendais pas non plus à voilà à être diffusée sur toutes les radios parce que voilà c'est mais et puis c'est un livre quand même qui reste même s'il est accessible à tout le monde il reste quand même très ancré social avec effectivement une méthode enfin les je pense que les étudiants ou les professionnels du social effectivement seront plus attirés par le livre que quelqu'un qui ne travaille pas dans le social ou qui connaît de très loin mais moi je trouve justement effectivement il y a l'intervention à l'aide-sup qui m'a permis d'avoir un bon feedback et puis et j'ai eu le sentiment aussi de pouvoir transmettre quelque chose aux étudiants. Ça, c'était vraiment important pour moi, parce que c'est ça l'objectif aussi d'une publication. J'en ai parlé tout à l'heure, l'étudiant qui m'a contacté, peut-être qu'il y en aura d'autres, peut-être qu'il n'y en aura pas du tout. J'attends pas. Et puis j'ai été quand même surprise parce que j'ai vendu à peu près 170 ouvrages. Et voilà, pour moi, je m'attendais pas à
Alors,
ce nombre-là.
Pour les auditeurs, on peut dire que par rapport à un livre de ce registre, c'est très bien. C'est un très bon niveau de vente. Hein, après un an, c'est ça?
Oui.
Après
oui.
un an et avec peu de communication, hein, tout à fait. Très bien. Merci Claire. Ludovic.
Alors moi, j'ai arrêté de regarder combien de livres j'avais vendus parce que. C'est pas ce qui m'intéresse principalement. Ce qui m'intéresse, le fait d'écrire ce livre, ça m'a conforté dans des engagements qui étaient les miens. J'ai vraiment envie d'apporter ma pierre à l'édifice, de faire œuvre d'utilité sociale et de convaincre les entreprises de s'intéresser de manière vraiment proactive et active à la question de l'insertion professionnelle des personnes handicapées. Donc, ce livre me permet d'enfoncer des portes. La déception que j'ai, c'est que ben, pour le moment, le virage culturel dont je parle souvent, qui doit s'opérer entre le milieu protégé et le milieu ordinaire de travail, bon, il ne se fait pas, mais je ne perds pas espoir de convaincre des employeurs de s'intéresser de manière beaucoup plus fine à la question de l'insertion des personnes en situation de handicap et pas simplement répondre à une obligation légale.
Super, très bien. Alors pour ma part, pour conclure, je suis très heureux de vous avoir à cette table aujourd'hui. Ce qui m'importait, c'était aussi de témoigner devant les auditeurs et peut-être devant les étudiants qui nous écoutent d'un cheminement comme ça, logique, entre des études, un mémoire de fin d'études, une publication éventuelle qui conduit bien souvent aussi vers des perspectives professionnelles. Hein. On le sait trop peu. Tout à l'heure, j'évoquais avec vous hors antenne le cas d'une jeune femme, Roberta Rubino, qui, après avoir publié sa thèse de doctorat en trois volets, a pu obtenir donc un travail dans une entreprise où elle fait de la recherche en Afrique. Et donc, en fait, la publication lui a offert cette possibilité. Parce que finalement, le livre, ça reste un vecteur de communication. C'est un vecteur aussi, c'est une fenêtre. C'est une fenêtre sur le monde, sur l'entreprise, ce que vous dites mm-hmm. là, Ludovic. Et ça témoigne aussi de tout le travail réalisé par l'auteur, qui est un travail substantiel et un travail qui montre toutes les valeurs, toutes les compétences. On parlait de compétences, hein, la dernière émission, voilà, qui montre aussi tout ce qui est de l'ordre des potentiels d'un auteur. Et bien souvent, ça lui permet d'ouvrir donc un champ de perspective et des orientations professionnelles nouvelles et qui n'étaient pas forcément non plus évidentes auparavant. Merci en tout cas à tous les deux d'avoir été présents aujourd'hui pour témoigner.
Merci.
Merci de ton invitation aussi.
Et donc je dis à tout le monde à bientôt pour une prochaine émission sur Radio Grand Ciel dans Un livre, un auteur. Au revoir.
Au revoir.
Merci, au revoir. Au revoir.